Bonjour à chacun d'entre vous et que la paix du Seigneur et l'espérance du Seigneur soient des promesses et des cadeaux de sa part ce matin pour chacun d'entre nous. J'ai admiré la souplesse de mon frère Philippe quand j'ai suggéré que la scène ait lieu tout de suite après le moment de louange, parce que le moment de louange nous a amené vers la personne de Jésus-Christ. Et c'était Jésus-Christ qu'on voulait voir élevé, adoré. D'ailleurs, la scène que nous venons de prendre, vous savez qu'il y a un autre nom qu'on donne quelquefois à cela. On dit la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Et quand on prend la scène, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, merci, mais je suis avec toi. On va ensemble en avant. J'aimerais lire quelques versets de la Bible. C'est important de placer la Bible aussi au premier plan. Je me souviens, il y a quelques années, quand on était à Lille, j'ai eu le privilège, l'occasion de parler dans une grande église catholique, il y avait 700, 800 personnes là, et toutes sortes d'autres représentants, et en sortant, les journalistes étaient là, et on m'a donné un titre que je n'aime pas beaucoup, pour moi c'est pas un titre, c'est un service. On a dit, monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez de la Bible? Qu'est-ce que vous aurez répondu? J'ai dit, mais j'aimerais vous dire que la Bible, c'est un livre très dangereux. Alors je le voyais noter les choses, et je sentais que la Voix du Nord allait avoir comme titre, le lendemain matin, pasteur dit que la Bible est un livre dangereux. Alors pourquoi c'est un livre dangereux? Mais j'ai dit, parce que si vous lisez la Bible, il y aura une révolution dans votre vie. Ah bon? Ah bon? Mais c'est vrai, hein? Si vous lisez la Bible vraiment, et vous suivez ce que la parole de Dieu dit, il y a une révolution constante. Ce n'est pas qu'une fois, c'est jour après jour. Je suis en train maintenant de lire la Bible depuis le début jusqu'à la fin, ce que je n'ai jamais fait d'un seul trait avant. Je confesse cela. Et je lis des passages que je ne pensais pas exister presque. Et ça me parle. C'est formidable. Alors j'aimerais lire juste trois versets qui sont cités, je pense, au tableau. Trois versets de l'Évangile de Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore rentré dans sa gloire. Que le Seigneur bénisse cette lecture. J'aimerais bien que, si vous écoutez ce matin, que vous contrôlez ce que je dis. Vous prenez une Bible et vous regardez dans la Bible si c'est vraiment ça que la Bible a dit. Ce ne sont pas mes paroles, mais la parole de Dieu qui compte. Jésus-Christ est toujours là quand les gens ont besoin de lui. C'est ça qui est formidable. Jésus est là quand les gens ont besoin de lui. Mais il aimerait être là plus longtemps que cela. Pas qu'on lui dise, mais Seigneur, ça y est, merci d'être venu, comme le plombier qui est venu chez nous l'autre jour, qui a rangé quelque chose avec beaucoup de capacité, dextérité. Seulement, le seul problème, c'est que ça ne marche pas, il faut qu'il revienne. Mais quand Jésus vient, il fait des choses de manière définitive et éternelle, si on accepte. Alors, lors de cette fête, c'était une grande fête, c'était la troisième grande fête à Jérusalem. Et malgré ce qu'une petite feuille des notes bibliques disait ce matin, c'est une fête qui avait deux raisons d'être. Une, c'était le remerciement pour l'arrivée des bons fruits de la moisson. La moisson était positive et copieuse, et c'était pour dire merci, ça c'est formidable. Mais l'autre raison, c'était de célébrer la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, l'Exode. Et donc les gens passaient partout dans la ville. Je voulais faire quelque chose ce matin, mais j'ai peur que ma femme me dise « Après, tu n'aurais jamais dû faire cela, je ne le fais pas. Hein. » J'avais envie d'avoir deux branches d'arbres entre mes mains, comme les Juifs. Une branche remplie de fruits et de créer gloire à Dieu pour cela. Et l'autre branche remplie de choses qui rappelaient le désert. Et ils étaient là pour se souvenir de cela. Et tout autour de cette fête, il y avait des petites cabanes. C'est pour cela qu'on l'appelait quelquefois la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. C'était la troisième grande fête. Et ces cabanes qui étaient faites de feuillage, de bambou et de paille, le but c'était de leur dire, mais dans le désert, ce n'était pas un hôtel 5 étoiles, hein. C'était peut-être des milliers d'étoiles parce qu'ils n'avaient pas de couverture au toit, hein, peut-être. Mais c'était pour rappeler que vous étiez là de passage et c'était du provisoire. Et maintenant vous êtes libérés de cela. Vous êtes libérés de cela. Et le chrétien dit la même chose. Il entend les paroles de Jésus-Christ qui disent « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ça ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Mais j'y vais pour vous préparer une place. » Alors là, dans ces petites cabanes, il se souvenait de ce qui s'était passé et le fait d'avoir été sauvé dans la traversée du désert. C'est pour cela que les chrétiens sont heureux. Si les chrétiens ne sont pas heureux, ce sont les chrétiens tristes. Un triste chrétien, c'est un chrétien triste. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais normalement, les chrétiens sont si reconnaissants qu'ils veulent, comme tout à l'heure, j'ai regardé les uns les autres, ils avaient envie de lever les mains, pourquoi pas? Ils avaient envie de chanter, tu les as poussés, Marie-Louis, pourquoi pas? Ils avaient envie d'applaudir, pourquoi pas? Parce qu'ils étaient reconnaissants et dans la joie. Et tout autour de cette place où il y avait la fête, ils étaient en train de chanter et de chercher la personne du Seigneur. Et avec joie, vous puiserez aux sources du salut. C'est un passage dans Ésaïe 12 et verset 3. Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Mais pourquoi c'était important cela? Parce que dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Je ne sais pas si vous savez ça, mais le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Hein. Entre réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. On a découvert depuis qu'il y a des sources d'eau qui sont très profondes, mais il faut aller les chercher. Mais il n'y avait pas d'eau, et les gens se souvenaient qu'ils avaient soif en traversant le désert. Ça vous est jamais arrivé, cela? Moi, je me souviens des sorties qu'on faisait avec les jeunes et d'autres dans une vallée près de chez nous, dans le Midi, dans les gorges du Verdon, si vous connaissez cela. Et une fois que vous êtes dans les gorges du Verdon, vous ne pouvez pas sortir. Il y a le début, on a faim. Mais faire entre 15 et 20 kilomètres en arrivant au bout, j'avais envie de boire, envie de boire, envie de boire. Et c'est pour cela que les prêtres passaient partout avec des cruches d'or, et ces cruches d'or étaient remplies d'eau. Et puis ils versaient les cruches d'eau au pied des autels pour montrer combien ils étaient reconnaissants d'avoir eu de l'eau. Et qu'est-ce que Jésus fait dans tout cela? Il met un point, ça y est, je suis là. Il apporte la vraie réponse. Il dit ceci, je suis là, si quelqu'un a soif. Il se lève et il le crie, si quelqu'un a soif. Moi j'ai envie de le crier très fort pour que tous les habitants de Prévesin l'entendent. Tous les habitants de Prévesin l'entendent. L'autre soir, dans une réunion de commission, on a pensé à l'importance qu'il y a que nous soyons placés ici, dans cette commune de Prévesin, en attendant qu'il y ait un témoignage dans les autres communes de Thoiry d'ailleurs. Moi, j'aimerais tellement ça. Mais on est là pour que les gens entendent si quelqu'un a soif. Il y a quelqu'un ici, dans le quartier, qui a soif, et dit, Jésus-Christ le dit si fort, mais qu'il vienne à moi, il dit. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et si tu as soif ce matin, si tu sens que la vie ne vaut pas grand-chose, va vers Jésus-Christ le plus rapidement possible, avant de quitter cette salle, et dis-lui, Seigneur, je veux boire de toi, j'ai envie de toi, je veux que ma vie change, parce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et sans doute, la personne de Jésus-Christ, dans toute sa grâce et vérité, s'est attirée du monde. Et les gens écoutaient. Qu'est-ce qu'il est en train de dire cela? Et il continue pour expliquer. Il explique que s'il doit partir bientôt, et pour ceux d'entre vous qui étaient réveillés dimanche dernier, qui est-ce qui était réveillé dimanche dernier? Oh, pas beaucoup, oh, quelques-uns, c'est bien. Alors vous vous souvenez que Jean a prêché sur Jean 16 et verset 7, vous vous souvenez de ça? Et il faut qu'il s'en aille, pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne le remplacer. Jésus-Christ a pris forme humaine, était pleinement humain ici-bas et pleinement Dieu en même temps. Il a accepté d'être limité par les contraintes humaines. Il n'avait pas de TGV ni d'avion. Il ne pouvait pas voyager comme cela. Il était à un endroit à la fois. Il dit, il est bon que je m'en aille pour vous envoyer le Consolateur qui sera toujours avec vous. Et au lieu d'être avec une personne, le Consolateur est venu sur des millions de personnes. Le Saint-Esprit pour venir ce rappel de Jésus-Christ. Alors il dit dans ce qu'il crie depuis le haut, dans cette fête, il crie, et ses eaux couleront de son sein en quantité. C'est une eau vive. Oh, j'ai envie de ça tous les jours. Et tous les jours, je le demande au Seigneur. Tous les jours, le matin, le soir, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé en toi. J'ai peut-être deux types de personnes avec moi ce matin. Pas que des hommes et des femmes, hein. C'est plus compliqué que ça, hein. Mais il y en a ceux qui ont fait l'expérience de Jésus-Christ et qui se sont un peu refroidis. Un peu refroidis. C'était bien le baptême. L'eau n'était pas trop fraîche. C'était bien le baptême. Il y a des gens qui m'ont embrassé à la sortie. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'aimaient, que j'étais leur frère, leur soeur maintenant. Mais qu'est-ce que ça a changé depuis? Tu as suivi une nouvelle alliance. Et Jésus-Christ dit qu'il est venu pour que le Saint-Esprit vienne et qu'il demeure dans chacun d'entre nous. On va parler de ça dans un tout petit instant. C'est tellement, tellement important. Parce que tout cela bouleverse les conceptions humaines. Que Dieu soit avec nous, Emmanuel, mais c'est quelque chose que le monde ne saisit pas. Si vous venez à moi. Si vous venez à moi, la Bible est remplie de phrases qui sont des impératives. Si vous venez à moi, il faut constamment venir vers le Seigneur. Ce n'est pas fait une fois pour toutes, la conversion est faite une fois pour toutes. Et par la suite, laissez-moi vous donner une explication pour cela. J'aurais pu demander à Jean de venir me traduire ici. Où est-ce qu'il est? Il est là quand même, parce qu'il connaît ce que je vais dire. Quand je suis arrivé au Québec pour la première fois, on m'a dit, est-ce que tu aimerais bien voir un parc à chars? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, un parc à chars? Je ne comprenais rien de ce qu'on me disait. On me disait que c'était du français, mais je ne comprenais rien. Alors on t'amène voir un parc à chars. Alors on m'a amené un parc à chars, et pour vous dévoiler l'histoire, il y avait des tas de voitures fond, des tas de Chrysler et toutes les autres, et des General Motors. Et je regardais, et sur les pare-brises de presque toutes ces voitures, c'était marqué « vendu ». Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un est venu, a donné 10 dollars, et a dit qu'on devait lui réserver cette voiture. Mais la personne va venir et apporter la totalité, et puis il va s'en aller avec la voiture pour toujours. Vous voyez la différence là? Il y a des gens qui sont venus vers Jésus-Christ, et qu'ils ont racheté. Une petite étiquette, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et maintenant, le Seigneur dit, mais je vais aller plus loin avec toi, plus loin avec toi. Et c'était un peu l'histoire de ces 120 personnes qui étaient là-haut dans la chambre haute et qui priaient, un peu découragées, un peu dans le deuil. Ils avaient été aimés par Jésus. Ça avait été fantastique de faire route avec lui. Et maintenant, il n'était plus là. Et il priait. Il priait. Mais il se souvenait vaguement que le Seigneur a dit, « Si vous attendez à Jérusalem, si vous vous attendez à moi, vous verrez qu'une bénédiction que le Père a préparée pour vous, une bénédiction. » Et j'aimerais dire, ça nous concerne nous tous. Ça concerne les chrétiens qui sont juste vendus, rachetés, et rien d'autre. Qui ne sont pas allés plus loin. Ils ne sont pas vraiment engagés avec Jésus-Christ. Et le Seigneur dit ce matin, mais mon esprit est venu pour te remplir, pour changer ta vie dans tous les domaines. Alors c'est ça qui s'est passé par la suite. J'aimerais vous dire une chose pour vous encourager, expliquer. Celui qui écrit tout cela de la part du Saint-Esprit, c'était qui? Mais c'était un toubib. C'était Luc qui était médecin. Et les médecins ne sont pas des gens qui exagèrent. Ce ne sont pas des gens qui disent des choses un peu farfelues. Ils disent des choses clairement, avec importance. Et Luc, le docteur Luc, a bien noté cela. Il a dit d'abord, il y avait un vent impétueux qui est venu, qui a rempli toute la maison. C'était la première partie du tableau du Saint-Esprit. Ce vent, il dérangeait pas mal. Mais c'est exactement ce que Jean a dit ailleurs dans son évangile. Quand le Saint-Esprit vient, il souffle où il veut. Il souffle où il veut. Et quand le Saint-Esprit commence à travailler dans nos vies, j'aimerais vous dire que, comme j'ai dit au début, c'est dérangeant. C'est dangereux. Il y a des choses qui vont devoir changer dans ton emploi du temps, dans ta manière de voir, dans le temps que tu passes à la télé, à la place de la Bible, dans tes absences de la réunion de prière. J'aimerais dire que ceux qui ne sont pas à la réunion de prière, je suis triste de ne pas les y voir. Parce que quand je vais à la réunion de prière, je suis encouragé, moi. Encouragé par ce que j'y vois. Ils m'encouragent dans la prière. Ils m'encouragent par l'affection fraternelle. Oh, je voudrais manquer ça pour rien au monde, si c'est possible. Et pareillement avec l'étude biblique. Et pareillement avec le culte. C'est la première fois que j'apprends ça de ma vie. En arrivant au Prévesin, à Prévesin, il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on sort au culte ce dimanche? On est allé au culte dimanche dernier. Cela, j'aimerais leur donner une lettre avec un timbre et qu'ils envoient au ciel, au Seigneur, marqué priorité. Et ils disent, Seigneur, est-ce que toi, tu étais au culte dimanche dernier ou tu n'as pas eu le temps pour venir? Est-ce que tu étais au culte ou tu n'as pas eu le temps de venir? Vous savez, quand le Saint-Esprit saisit une vie, il bouleverse les choses, il bouscule les choses, il bouscule les priorités. Je vous avertis. Quand j'étais jeune homme à Genève, et j'avais une voiture américaine quand même de temps en temps, je disais au Seigneur, mais je veux bien aller dans de petites églises le dimanche, mais fiche-moi la paix le restant de la semaine. Je n'ai pas compris que ce n'est pas comme ça qu'on peut vivre la vie chrétienne. Et le Seigneur a dû m'amener jusqu'au Québec, je ne vous raconte pas toute l'histoire, pour que là, il me ramène en France et qu'il me dise quelles étaient les priorités. Ce n'était pas mon boulot, ce n'était pas le fait que j'ai appris par les Suisses à l'époque, ce n'était pas parce que je ne payais pas les taxes avec la benzine. Je ne sais pas si la benzine existe toujours, moi je dis l'essence aujourd'hui. Il n'y avait pas besoin de payer des taxes et tout ça, c'était bien. Mais ce n'était pas ça la vie. La vie, c'était de laisser le Seigneur modeler ma vie et venir. Alors ce vent du ciel qui bouleversait tout le monde, et puis il est dit en même temps, il y eut comme des flammes de feu qui descendaient sur chacun d'entre nous. Moi, j'ai relevé cette phrase. Chacun d'entre nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie solitaire. C'est une vie d'équipe. On est en train d'envisager le changement d'une de nos associations qui s'appelle Eau Vive Mission. Et le mot mission est un peu dangereux actuellement dans certaines parties de l'Afrique. Et on se demande si on ne veut pas l'appeler Eau Vive Équipe. Parce que c'est ça la vie chrétienne. C'est une vie d'équipe. Ils étaient là 120 en équipe, en priant le Seigneur, en étant disponibles. Et la flamme descend d'une manière particulière sur chacun, comme le Seigneur veut le faire ce matin. Il veut descendre sur chacun. Tu es différent de ta voisine, de ton voisin. Il y a d'autres dons que je vais te donner, parce qu'il donne des dons. Il porte du fruit. Et chacun de nous est différent. Et chacun d'entre nous a une valeur au Seigneur, une valeur à l'Église, une valeur à ses frères et sœurs. Et la suite, c'était dramatique. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commençaient à parler dans différentes langues comme le Seigneur dirigeait. Tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencent à rendre témoignage des merveilles du Seigneur. Et puis les gens ont dit quelque chose que j'entends quelquefois. Quelquefois. Je me souviens aussi, un jour, à Lille, on a amené nos jeunes pour partir rendre visite à d'autres communautés. Des nouveaux chrétiens, les jeunes, ont rempli les voitures. Et un jour, il y a un chrétien qui m'a dit, « Mais ma voiture, tu nous prends pour des poires ?» Qui me dit, « Est-ce qu'on vous a jamais dit ça ?»« Tu nous prends pour des poires ?» On doit mettre notre voiture à disposition des jeunes qui ont fumé, qui sentent mauvais, pour aller quelque part le dimanche après-midi, quand on pourrait faire autre chose. On a des poires. J'ai dit, on n'est pas seulement des poires, on est des pommes. Et j'aime dire qu'on est des tomates. Vous savez pourquoi j'aime bien dire qu'on est des tomates? Parce qu'en italien, vous savez ce que c'est? Pomodoro. Pomodoro. Les pommes d'or. On est tout ce que le Seigneur veut que nous soyons. Disponibles entre ses mains. Et on n'est pas des gens qui avons trop bu. Mais on est heureux d'être chrétien. Heureux d'être chrétien. Vous auriez pu avoir Marie-Lou là, comme dans le vieux temps, on battait la main comme ça, avec les chorales, vous voyez, un peu comme ça, ça et ça et ça. Et on chantait les cantiques à 12 km à l'heure, 13 si on était pressé, hein. Vous voyez un peu de style. Au lieu de la vie du chrétien, mais c'est une vie joyeuse. C'est une vie, on est heureux d'être chrétien, et on fait des tas de choses qu'on ne faisait pas avant, et on ne fait plus des choses qu'on faisait avant. Il y a un changement radical, et ça provient du vent qui souffle. Le vent qui souffle. Est-ce que le vent souffle dans ta vie? Est-ce que la Bible est un livre dangereux? Si tu ne la lis pas, elle n'est pas dangereuse, hein? Il y a des gens qui ont des Bibles qui gardent dans les placards. Dans le temps, quand je faisais des visites, et je disais, vous connaissez la Bible? Oui, j'ai une Bible quelque part. Et je voyais quelqu'un qui allait chercher dans tous les tiroirs et finalement enlever la poussière et puis là, il y avait une Bible. Une Bible, c'est pas pour ça, hein? C'est pas pour ça, hein? J'ai un fils, d'ailleurs mes deux fils font pareil, s'ils viennent chez nous, ils ouvrent le frigo, ils vérifient les dates sur tout ce qui est dedans et ce qui ne convient pas, ils le balancent à la poubelle. Mais il y a des gens qui font ça avec la Bible. La Bible est fraîche, c'est toute nouvelle. C'est quelque chose qui se passe. Le vent balaye notre pensée et notre manière de voir. Je le répète, le vent du Saint-Esprit balaye notre pensée et notre manière de voir et vient nous remplir d'une force toute nouvelle. C'est Jésus-Christ qui demeure en nous. Il y a des gens qui n'ont pas compris cela. Il y a des gens dans le Nouveau Testament qui ont dit aux apôtres, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il a dû leur parler du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont que vaguement parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui vient de la part de Dieu pour rentrer dans nos vies. Un jour, on parlait à l'évangéliste américain, M. Moody, style Billy Graham, mais avant Billy Graham, avant mon temps, avant votre temps. Et cet homme, un autre pasteur, disait, mais il était un peu jaloux. Il disait, « Monsieur Moody, il pense qu'il a un monopole du Saint-Esprit, lui. Hein? Il en parle. Pour lui, il a monopolisé le Saint-Esprit. » Et l'autre a répondu très doucement, « Je ne crois pas. Je crois que le Saint-Esprit a le monopole de Monsieur Moody. C'est tout autre chose. Bien-aimé, est-ce que le Saint-Esprit à le monopole de ta vie ce matin, pour te libérer, pour te donner de vivre pleinement pour Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut pour nous ce matin. Vous ne serez peut-être pas appelés à chanter sous la direction de notre chère sœur. Moi, si j'y venais, tout chanterait faux là avec moi. J'y vais pas. Je prie pour eux et je me réjouis d'eux. Vous ne serez pas appelés à faire ça. Mais vous aurez une place. Chacun a une place dans la maison de Dieu. Chacun a une place dans la famille de Dieu. Chacun a un appel dans la famille de Dieu. Le vent vient balayer tout. Et le feu est là pour être allumé. Vous avez remarqué que le feu sert à deux choses. À brûler ce dont on n'a pas besoin. Et à éclairer là où c'est noir. Et c'est ça qu'il veut faire. C'est pour ça que j'aimerais proposer un chant pour terminer maintenant. Un chant qui va apparaître, j'espère, c'est sur le tableau. Dites oui si c'est sur le tableau, parce que moi je ne peux pas regarder, je n'ai pas de rétroviseur moi. Vers Jésus, lève les yeux. Et j'aimerais que ce matin, nous levions les yeux vers le Seigneur. Vers le Seigneur. David, doucement pour l'instant, j'aimerais bien que nous regardions le Seigneur en même temps que la musique, et que nos regards soient vers le Seigneur, vers Jésus. Lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre parleront peu à peu. Oh là là, j'ai fait ça et ça et ça, ça n'a plus d'importance dans ma vie tout ça. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour nous un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom n'a rien de comparable sur cette terre ou là-haut dans les cieux. J'aimerais que nous chantions ce chant et qu'après un moment de silence, de réflexion, où David va peut-être continuer de jouer pendant ce moment-là pour que nous réfléchissions et que nous prions dans le silence. On le chante, David, merci beaucoup.
Les annonces du programme de la semaine. Mardi soir, réunion de prière. Alors, si vous voulez être encouragé, venez à la réunion de prière. Si vous voulez aussi prier, partager, encourager les autres, c'est là aussi votre place. Mercredi soir, la chorale se retrouve à 20h30. Samedi matin, il y a le club d'enfants. Donc c'est encore temps pour inviter des enfants. C'est la dernière rencontre du club d'enfants de cette année scolaire. Et le club d'enfants va se prolonger par un repas. Donc si vous invitez des enfants, n'hésitez pas à en inviter, mais précisez-leur qu'ils peuvent rester pour partager ce temps ensemble, ce temps de repas ensemble, avec les parents aussi, les enfants et les parents. Voilà. Samedi soir, groupe de jeunes. Dimanche prochain, c'est un cinquième dimanche du mois. Donc, thé café tout d'abord à 9h30 pour commencer ce dimanche fraternel, tous ensemble pour avoir un temps pour échanger. Et puis ensuite, le culte à 10h30 dans cette salle. Alors, comme tous les cinquièmes dimanches, c'est un culte particulier puisque c'est un culte de témoignage. Donc de témoignage de ce qu'on vit avec Christ, de ce qu'on a vécu peut-être un élément précis, particulier de ce qu'on a vécu avec notre Dieu. Alors préparez-vous si vous voulez partager quelque chose. Et puis ayez la liberté de venir pour écouter aussi ce que les autres vont partager. Le culte sera suivi d'un repas canadien pour qu'on puisse continuer ce temps fraternel ensemble. Il fera beau, il fera peut-être un petit peu plus chaud. Alors voilà, prévoyons-le de partager aussi ce repas ensemble, un repas canadien. Sinon, on a à vous annoncer la naissance de Benjamin, le deuxième garçon de Willy et Camille, qui est né lundi passé. Une annonce pour un petit peu plus tard, qui n'est pas évidente parce que c'est une activité qui tombe en plein dans la semaine du club d'été, c'est que dans le cadre de la pastorale, on a la possibilité d'accueillir un orchestre qui est de passage pile à ce moment-là, donc on ne pouvait pas choisir le temps. C'est David Porter qui est le lien par rapport à cet événement. C'est l'orchestre d'Al Souls. C'est donc un orchestre qui vient d'une église de Londres. Et c'est un grand orchestre. L'orchestre ne sera pas au complet, il n'y aura que 35 personnes, enfin 37 personnes, mais quand même, c'est déjà pas mal. Ils font une tournée. Et donc, ils seront dans la région du mercredi 15 au samedi 18 juillet. Et ils ont besoin d'hébergement. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident pour notre église, c'est ce que j'ai partagé aussi dans le cadre de la pastorale, puisqu'on a déjà une activité importante et puis très prenante avec le club d'été. Mais si des personnes ont la possibilité d'héberger quelques personnes, alors c'est sur l'ensemble des sept églises du Pays de Gex, donc si... Donc on va trouver, hein, héberger 37 personnes entre cette église, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Et si quelqu'un veut avoir cette joie et ce privilège d'accueillir des chrétiens pendant ces quelques jours, donc c'est du mercredi soir 15 juillet au samedi matin 18 juillet. Voilà, donc pour accueillir peut-être même une ou deux personnes, voilà. Juste cette petite annonce, donc vous pouvez me contacter par rapport à ça. Cette semaine, on vous invite de prier pour les chrétiens qui vivent dans un pays dans lequel il y a de la persécution. Et cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens du Sri Lanka. Alors, ce n'est pas évident de nouveau de savoir où est le Sri Lanka. Est-ce que quelqu'un a une idée? 44, bien, bravo. Au sud-est de l'Inde. Dans ce pays, il n'est pas rare que des pasteurs et même des membres d'église se fassent agresser par des bouddhistes extrémistes dans les campagnes, principalement dans les campagnes, moins dans les grandes villes. Au niveau national, il existe une vraie propagande antichrétienne de la part de certains moines qui cherchent à limiter les activités des églises. Ils essaient par exemple de faire voter des lois sur la pollution sonore pour que soient interdites les sonorisations, notamment les sonorisations extérieures. Par ailleurs, il y a un projet de loi anti-conversion, ça c'est quand même space, hein, une loi anti-conversion qui a été proposée mais qui n'est pas passée, qui pourrait limiter encore plus la liberté religieuse dans ce pays. Alors, prions pour ce pays. Ce n'est pas un très grand pays. Il y a 21,6 millions d'habitants, mais il y a 1,9 million de chrétiens, toutes confessions confondues. Voilà, prions pour nos frères et sœurs, pendant cette semaine, pour nos frères et sœurs qui habitent le Sri Lanka. Sinon, je vous invite à vous lever pour partager avec vous encore deux versets dans Éphésiens chapitre 3. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, et cette puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, bonne semaine.